Chapitre 14. Lorsque Madame de La Rochegue, son mari et sa sœur furent réunies dans un salon du second étage, Héléna de La Rochegue, qui, depuis la venue d'Herminie, avait semblé pensive, dit à la baronne d'une voix douce et lente : Je crois, ma sœur, que vous avez eu tort de prendre cette musicienne comme maîtresse de piano pour Ernestine de Beauménil.
Tort, et pourquoi ? Demanda la baronne.
Cette jeune fille paraît orgueilleuse, répondit Héléna avec la même placidité.
Avez-vous remarqué avec quelle surprenante hauteur elle a rendu le billet de 500 francs,
quoique l'usure de ses vêtements prouva suffisamment que cette somme lui aurait été nécessaire ?
C'est justement cela qui m'a touché, reprit Madame de La Rochegue. Il y avait quelque chose de si intéressant dans cet orgueilleux refus d'une personne pauvre. Il y avait tant de dignité naturelle dans ses manières, que j'étais, pour ainsi dire, amené malgré moi à lui faire l'offre que vous blâmez, ma chère sœur.
L'orgueil n'est jamais intéressant. C'est le plus damnable des 7 péchés capitaux, reprit mielleusement Héléna.
L'orgueil est le contraire de l'humilité chrétienne, sans laquelle il n'y a pas de salut, ajouta-t-elle,
et je crains que l'influence de cette jeune fille ne soit pernicieuse à Ernestine de Beauménil.
Madame de La Rochegue sourit imperceptiblement en regardant son mari. Celui-ci répondit par un léger haussement d'épaule qui montrait assez le peu de cas que tous deux faisaient des observations d'Héléna. Depuis longtemps habitué à considérer la dévote comme une personne parfaitement nulle, le baron et sa femme ne supposaient pas que cette vieille fille, d'une inaltérable douceur, d'un esprit borné, et qui ne disait pas 20 paroles en un jour, put concevoir une idée en dehors de la pratique de ses habitudes de sacristie.
« Nous ferons notre profit de votre observation, ma chère sœur, » dit la baronne à Héléna. « Après tout, nous n'avons qu'un engagement insignifiant avec cette demoiselle. D'ailleurs, votre observation nous conduit tout naturellement à l'objet de cet entretien. » Aussitôt le baron se leva, retourna prestement sa chaise afin de pouvoir s'appuyer sur son dossier et donner ainsi toute l'ampleur convenable à ses gestes oratoires et à ses attitudes parlementaires. Déjà, mettant la main gauche sous le revers de son habit et balançant son bras droit, il s'apprêtait à parler lorsque sa femme lui dit
« Monsieur La Rochegue, pardon, mais vous allez me faire la grâce de laisser votre geste tranquille et de vous asseoir.
Vous voudrez bien dire votre opinion sans vous mettre en frais d'éloquence. Causons, tout simplement, ne pérorons pas. Conservez votre puissance oratoire pour la tribune, où vous arriverez infailliblement.
Mais aujourd'hui, résignez-vous à parler tout bonnement comme un homme de beaucoup de tact et de beaucoup d'esprit, sinon je vous interromps à chaque instant. »
Le baron connaissait par expérience l'horreur profonde de sa femme pour ses speeches. Il retourna donc piteusement sa chaise et se rassit en soupirant. La baronne prit la parole.
« Ernestine arrive ce soir. Convenons donc de nos faits. »
« C'est indispensable, » dit le baron.
Tout dépend de notre bon accord. Il faut que nous ayons les uns dans les autres la confiance la plus aveugle, la plus entière, la plus absolue.
Sans cela, reprit la baronne, nous perdrons tous les avantages que nous devons attendre de cette tutelle.
Car enfin, dit le baron, l'on n'est pas tuteur pour son plaisir.
Il faut, au contraire, que cette tutelle ne nous rapporte que plaisir et profit, reprit la baronne.
C'est ce que je voulais dire, riposta son mari.
Je n'en doute pas, répondit la baronne, et elle ajouta « Posons d'abord bien en fait qu'en ce qui touche Ernestine, nous n'agirons jamais isolément.
« Adoptez, » dit le baron.
« C'est juste, » dit Héléna.
Comme depuis longtemps nous avions absolument rompu avec la comtesse de Beauménil, dont le caractère m'a toujours été antipathique et insupportable, reprit Madame de La Rochegue, nous n'avons pas la moindre donnée sur les sentiments d'Ernestine. Mais malheureusement, elle n'a pas 16 ans, et en 2 jours, nous l'aurons pénétrée à fond, traversée à jour.
« Quant à cela, fiez-vous à ma sagacité, » dit le baron d'un air machiavélique.
« Je me fierai sans doute à votre pénétration, mais aussi un peu à la mienne, si vous le permettez, » répondit la baronne.
« Du reste, quel que soit le caractère d'Ernestine, nous n'avons rien à changer à nos dispositions. La combler d'attention, de prévenance, aller au-devant de ses moindres désirs, épier, deviner ses goûts, les flatter, l'aduler, l'enchanter,
nous en faire, en un mot, chérir, adorer, voilà où il faut en arriver, c'est le but.
Quant aux moyens,
Nous les trouverons dans la connaissance des habitudes et des sentiments d'Ernestine.
Voici comment je résume la question, dit le baron en se levant avec solennité. Et d'abord, je pose en fait que, mais à un regard de sa femme, le baron se rassit aussitôt et continua modestement.
Il faut qu'en un mot, Ernestine ne pense, ne voit, n'agisse que par nous. Voilà l'important.
La fin justifie les moyens, ajouta pieusement Helena.
Nous avons d'ailleurs parfaitement engagé la partie, reprit la baronne. Ernestine nous saura infailliblement bon gré de nous être retirés au second pour lui abandonner le premier étage de l'hôtel, qui a coûté près de 50 000 écus à restaurer, à dorer et à meubler pour son usage.
Dorure, meubles et restaurations qui nous resteront, bien entendu, puisque la maison est à nous, ajouta le baron d'un air guilleret,
car avant tout il fallait loger décemment la plus riche héritière de France, ainsi que cela a été réglé dans le conseil de famille.
Arrivons maintenant à la question la plus importante, la plus délicate de toutes, reprit la baronne, à la question des prétendants qui vont indubitablement surgir de toutes parts.
C'est certain, dit le baron en évitant de regarder sa femme. Hélène ne prononça pas une parole, mais parut redoubler d'attention. La baronne poursuivit.
Ernestine a 16 ans. Elle est en âge d'être mariée. Aussi, notre position auprès d'elle doit-elle nous donner une influence énorme dans le monde, car l'on croira, et l'on ne se trompera pas, que nous aurons l'action la plus décisive sur le choix de notre pupille.
C'est bien le moins, dit le baron.
Cette influence nous est déjà tellement acquise depuis que nous avons la tutelle, reprit la baronne, que beaucoup de gens, aidés plus considérables par leur position ou par leur naissance, ont fait et font journellement toutes sortes de démarches et même de bassesses auprès de moi, pour se mettre bien dans mes papiers, comme on dit vulgairement. Nous pouvons donc tirer un immense parti d'une pareille clientèle.
Et moi donc, dit le baron, des personnes que je ne voyais plus depuis des siècles, et avec qui j'étais même en froideur ou en assez mauvais termes, ont fait 1000 platitudes pour renouer avec moi leurs anciennes relations. L'autre jour, chez Madame de Mirecourt, on faisait foule autour de moi. J'étais littéralement entouré, obsédé, étouffé.
Il n'est pas, reprit la baronne, jusqu'à ce méchant marquis de Maillefort que j'ai toujours eu en exécration.
Et vous avez raison, reprit le baron en interrompant sa femme.
Je ne sais rien de plus sardonique, de plus déplaisant, de plus insolent que cet infernal bossu.
Je l'ai vu 2 fois, dit à son tour pieusement Helena.
Il a tous les vices écrits sur le visage. Il a l'air d'un Satan.
Eh bien, reprit la baronne, il y a 15 jours, ce Satan tombe chez moi comme des nues avec son aplomb ordinaire, quoiqu'il n'ait pas mis les pieds chez moi depuis 5 ou 6 ans, et il est déjà revenu plusieurs fois me voir le matin.
J'espère bien que si celui-là vous flatte et vous flagorne, reprit le baron, ce n'est pas pour son compte, à moins qu'il ne s'abuse étrangement.
Évidemment, reprit la baronne.
Aussi, je suis convaincu que M. de Maillefort s'est rapproché de nous avec une arrière-pensée, avec une prétention quelconque. Or, je vous déclare que cette arrière-pensée, je la pénétrerai, et que cette prétention, il ne me l'imposera pas.
Maudit bossu! Je suis désolé de le voir revenir ici, reprit M. de la Rochegue.
C'est ma bête d'antipathie, ma bête noire, ma bête d'horreur.
Eh, mon Dieu, reprit la baronne avec impatience, il n'y a pas de bête d'horreur qui fasse. Il faut subir le marquis. Et d'ailleurs, si un homme ainsi posé nous fait de telles avances, que sera-ce des autres? Avant tout, cela prouve notre influence. Sachons donc en tirer parti de plus d'une façon, et cette première monture épuisée, nous serons bien malhabiles si nous n'amenons pas Ernestine à un choix très avantageux pour nous-mêmes.
Vous posez les questions à merveille, ma chère, dit le baron en redoublant d'attention, tandis qu'Héléna, non moins intéressée, rapprochait sa chaise de celle de son frère et de sa femme.
Maintenant, reprit la baronne, devons-nous précipiter ou retarder le moment où il faudra qu'Ernestine fasse un choix?
Très importante question, dit le baron.
Mon avis serait d'ajourner à 6 mois au moins toute détermination à ce sujet, dit la baronne.
C'est aussi mon avis, s'écria le baron, comme si les intentions de sa femme lui eussent causé une satisfaction secrète.
Je pense absolument comme vous, mon frère, et comme vous, ma sœur, dit Helena, qui, silencieuse, mais profondément réfléchi, écoutait les yeux baissés, ne perdait pas un mot de cet entretien.
« À merveille !»
dit la baronne, évidemment aussi très contente de ce commun accord.
« C'est en nous entendant toujours ainsi que nous mènerons cette affaire à bien,
car il va sans dire que nous nous jurons formellement, » ajouta la baronne d'un ton solennel, « que nous nous jurons, au nom de nos plus chers intérêts, de n'accepter aucun prétendant la Madernestine sans nous en prévenir et sans nous concerter. Agir isolément et secrètement serait une trahison indigne, infâme, horrible, » s'écria le baron, semblant se révolter à la seule pensée de cette énormité.
« Jésus, mon Dieu !» dit Héléna en joignant les mains, « qui pourrait songer à une si vilaine traîtrise ?»«
Ce serait une infamie, » reprit à son tour la baronne, « et plus qu'une infamie, une insigne maladresse. Autant nous serons forts en nous concertant, autant nous serions faibles en nous divisant. »
« L'union fait la force, » reprit péremptoirement le baron.
Ainsi donc, sauf changement de résolution concerté entre nous trois, nous ajournons à 6 mois tout projet sur l'établissement d'Ernestine afin d'avoir le temps d'exploiter notre influence.
Ces points résolus, reprit la baronne, arrivons à une chose qui ne manque pas de gravité. Faudra-t-il, oui ou non, laisser à Ernestine sa souveraineté?
Cette madame l'aînée, autant que j'ai pu m'en renseigner, est un peu au-dessus de la classe des femmes de chambre ordinaire. Elle est depuis 2 ans auprès d'Ernestine, elle doit donc exercer une certaine influence sur elle.
« Une idée !» s'écria le baron d'un air capable et profond. « Il faut évincer la gouvernante.
La perdre dans l'esprit d'Ernestine, ce serait très fort. »«
Ce serait très faible, » reprit la baronne.
« Mais, ma chère, mais, monsieur, il s'agit tout simplement de faire tourner cette influence à notre profit, d'avoir la gouvernante à notre discrétion. » D'arriver à ce qu'elle n'agisse que selon nos instructions.
Alors, cette influence de tous les moments, au lieu de nous être redoutable, nous pourra servir très puissamment.
C'est juste, dit Héléna.
Le fait est que, sous ce point de vue, dit le baron en réfléchissant, la gouvernante peut être très utile, très avantageuse, très serviable. Mais pourtant, si elle refusait de se mettre dans nos intérêts, ou si nos tentatives pour nous concilier cette femme éveillaient la défiance d'Ernestine.
Il faudra d'abord s'y prendre adroitement.
Et je m'en charge, dit la baronne. Si nous pressentons que l'on ne peut gagner cette femme, alors nous en reviendrons à l'idée de M. de la Rochegue. Nous évincerons la gouvernante.
Cet entretien fut interrompu par un des gens de la maison qui vint dire à Mme de la Rochegue.
Madame la baronne, le courrier qui précède la voiture de Mademoiselle de Beauménil vient de descendre de cheval dans la cour. Il n'a qu'une demi-heure d'avance.
« Vite, vite, à notre toilette !» dit la baronne dès que le domestique fut sorti.
Puis elle ajouta comme par réflexion. « Mais j'y pense. Nous avons, comme cousins, porté pendant 6 semaines le deuil de la comtesse. Il serait peut-être d'un bon effet de le porter encore, ce deuil. Tous les gens d'Ernestine sont en noir et par nos ordres, ces voitures seront drapées. Ne craignez-vous pas que si, pour les premiers temps, je m'habillais de couleur, cela ne parut désobligeant à cette petite ?
Vous avez raison, ma chère amie, dit le baron. Reprenez votre deuil, ne fût-ce que 15 jours.
C'est assez désagréable, dit la baronne, car le noir me va comme une horreur.
Mais il est des sacrifices qu'il faut s'imposer. Quant à nos conventions, ajouta la baronne,
aucune démarche isolée ou secrète au sujet d'Ernestine, c'est juré.
C'est juré, dit le baron.
C'est juré, dit Héléna.
Après quoi, les trois personnages se séparèrent pour aller faire leur toilette du soir et rentrèrent chacun dans leur appartement. Aussitôt après avoir quitté M. de la Rochegue et sa sœur, la baronne se renferma chez elle et écrivit à la hâte un billet ainsi conçu.
Ma chère Julie, la petite arrive ce soir. Je serai chez vous demain sur les 10 heures du matin. Nous n'avons pas un moment à perdre. Prévenez qui vous savez. Il faut bien nous entendre. Silence et défiance. L de LR.
Sur ce billet, la baronne écrivit l'adresse suivante à Madame la Vicomtesse de Mirecourt, s'adressant alors à la femme de chambre et lui remettant la lettre.
Tout à l'heure, mademoiselle, pendant que nous serons à table, vous porterez ceci à Madame de Mirecourt. Vous prendrez un carton à dentelle, comme si vous alliez faire une commission pour ma toilette. »
Presque au même instant, s'enfermant à double tour, le baron, de son côté, écrivait cette lettre.
« Monsieur de la Rochegue prie Monsieur le baron de Rabille de vouloir bien l'attendre chez lui demain, entre 1h et 2h de l'après-midi. Ce rendez-vous est très urgent. »
Monsieur de la Rochegue compte sur l'obligeante exactitude de Monsieur de Rabille et lui offre ici l'assurance de ses sentiments les plus distingués.
Sur l'adresse de ce billet, le baron écrivit « À Monsieur le baron de Rabille, 7 rue Godot de Mauroy. » Puis il dit à son valet de chambre « Vous allez envoyer quelqu'un jeter tout de suite cette lettre à la poste. »
Enfin, Mademoiselle Helena, s'entourant des mêmes précautions que Monsieur et Madame de la Rochegue, écrivit secrètement comme eux la lettre suivante
« Mon cher abbé, ne manquez pas de venir demain à 10h du matin, c'est justement notre jour de conférence.
Que Dieu soit avec nous, l'heure est venue.
Priez pour moi comme je prie pour vous. H. de LR. »
Sur ce billet, Helena écrivit cette adresse
« À Monsieur l'abbé Ledoux, rue de la Planche. »